Ça s'est terminé ce week-end du côté de la Coupe Rogers de tennis à Montréal et à Toronto, mais ça se poursuivait pour Félix Auger et Aliassim qui n'a fait que passer du côté de Cincinnati. On en parle avec Hélène Pelletier qui est avec nous. Salut Hélène!
Oui, bonsoir!
Bon, Hélène, il y avait de l'émotion du côté de Montréal. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour Félix Auger et Aliassim du côté de Cincinnati.
Ouais, c'est exact. Et tu sais, je passais une petite remarque sur les ondes de RDS alors qu'on voyait Félix entrer, pénétrer sur le terrain devant Nermir Kitzmanovic, qui est quand même un jeune joueur, même âge que lui. D'ailleurs, lorsque Félix avait gagné l'US Open chez les juniors, c'est lui qui l'avait battu en ronde ultime. C'est un solide, un jeune homme qui s'est qualifié ici à Cincinnati et qui est extrêmement puissant en fond de terrain et qui bouge d'ailleurs ultra bien. Donc, il y en a pas de match facile en tournoi de la série 1000. Et là, il pénètre à l'intérieur du terrain, il regarde tout autour, il y a une poignée de spectateurs, c'est mort comme ambiance. La bienvenue à la réalité. Après avoir été la grande vedette, évidemment, lors des derniers jours à Montréal, d'être en demande comme c'est pas possible, il reçoit des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de demandes de partout dans le monde, tout le monde se l'arrache. Et là, de se présenter évidemment devant les siens, de vivre de grandes émotions, de passer proche, d'aller plus loin encore contre Karen Khachanov, un joueur, un membre du top 10, qu'il aurait dû battre, soit dit en passant, puisqu'il menait 7-6, il avait le bris, il avait un bris d'avance deux fois dans la deuxième manche, puis il a juste été un peu pris par ses émotions. Devant, évidemment, ce qui aurait été un haut fait d'armes. Des belles choses, mais aujourd'hui, ça a été compliqué. Aujourd'hui, il était sans énergie. Encore une fois, beaucoup de problèmes avec sa deuxième balle. Il est resté positif, il est resté impliqué au meilleur de ses capacités, mais c'est comme s'il n'avait pas de jambes. Mmh. Et l'adversaire ne ratait absolument rien.
C'est là qu'on se rend compte, Hélène, comment, tu l'as mentionné, comment la vie d'athlète, parfois, ça peut sembler extrêmement glamour une journée, mais le lendemain, c'est différent. Écoute, pas facile. Moi, quand je vois les images, je me dis, tu viens de terminer un tournoi, tu as été éliminé, là, tu as rencontré tout le monde. Après, tu sautes dans tes valises, tu recommences la semaine d'après un autre tournoi. Il faut que tu sois capable d'être extrêmement concentré sur la tâche parce que sinon, c'est facile de se perdre.
Puis à un moment donné, le puits est vide. Écoute, vivre ce qu'a vécu Félix Auger-Aliassime à Montréal, est-ce que même Djokovic, Federer, Nadal ont vécu ça dans leur carrière? Peut-être Andy Murray est celui qui a peut-être vécu la même pression lorsqu'il était à Wimbledon, puis on n'arrêtait pas de dire à chaque année, oh, ça fait au-delà de 60 ans qu'un Britannique n'a pas gagné Wimbledon. Le dernier, Fred Perry, on voit sa statue. Tu comprends? Mmh. Et on l'énervait avec ça chaque année, puis il a réussi à passer à travers, puis pas juste une fois, il a gagné les Olympiques à Wimbledon. Puis il a gagné deux titres au All England. Alors, mais sinon, Federer joue rarement dans son pays. Il l'a fait au tout début de sa carrière parce qu'il y a juste des petits tournois. Nadal a été un fier guerrier. On dirait que lui, il adore ce genre de situation. Puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'il est déjà en avance sur ce qu'on avait prévu de sa part. Et puis tu sais, pour ses problèmes en deuxième balle de service, j'ai eu la chance de parler à son coach. Et puis, ce qu'il m'a dit de ce côté-là, évidemment, c'est que il était déjà un petit peu en retard dans son développement pour ce qui est du lancer de balle, pour ce qui est d'avoir une belle constance et une belle coordination, une belle biomécanique pour l'élan, autant en première qu'en deuxième balle. Et lorsqu'il devient nerveux, c'est son lancer de balle qui s'en va à tribord et à bâbord. Tu comprends?
Mmh, ouais.
Et dans ce temps-là, ben, qu'est-ce que tu veux? Ton lancer de balle est fait, alors tu t'exécutes. Mais ça faut que ça soit tellement précis. Ce geste de la main gauche pour les droitiers, un geste d'une grande souplesse. Je pense que le plus beau geste, c'est celui de Roger Federer au lancer de balle. Il y avait Pete Sampras également qui était très, très, très constant. Mais tu feras l'exercice, tu prends une balle puis tu essaies de la lancer toujours au même endroit en mettant une raquette au sol puis tu exiges que la balle tombe dans le milieu de la raquette qui est au sol. Tu vas voir jusqu'à quel point on se trompe. Pourtant, c'est un geste d'une grande facilité, mais il a besoin d'encore plus de métier en lui. Puis en même temps, j'aimerais qu'on se prête au jeu des comparaisons. Parce qu'à 19 ans, est-ce que tu sais où était classé Novak Djokovic?
Non, tu vas me dire.
63e au monde.
Quand même, Félix, lui, 21e rang mondial, quand même bien.
Federer, à 19 ans, il était où?
Tu vas me dire.
40e. Andy Murray, à 19 ans, 46e. Nadal est le seul qui était 3e au monde à 19 ans. Tu comprends? Alors, donnons-lui le temps, puis il faut que lui-même accepte les moments un peu plus difficiles à l'intérieur de son jeu, même s'il le sait qu'il peut réussir ce genre de coup-là, les yeux fermés. Puis aujourd'hui, ben, je pense que c'était peut-être un match de trop.
OK. T'en parlais de Raphaël Nadal. C'est une balade dans le parc face à Medvedev en finale du côté de Montréal. Victoire de 6-3, 6-0. Nadal a été tout simplement performant. Il aime Montréal. Il connaît le succès à Montréal.
Écoute, c'est son cinquième titre de la Coupe Rogers, alors c'est déjà très, très bien parce que on sait bien que il y a des grands, grands joueurs qui n'aiment pas, surtout les Européens. C'est difficile et il vient vite ce tournoi-là après avoir tellement donné sur terre battue en jouant tous les tournois préparatoires à Roland-Garros, en allant jusqu'au bout à Roland et par la suite, ben juste 3 semaines et puis hop, on s'en va s'exercer sur gazon, une surface diamétralement opposée à la terre battue qui offre un rebond très haut, tandis que le gazon, c'est moins pire qu'avant. Mais quand même, c'est un rebond qui est bas. Et là, ben, faut jouer sur une surface qui t'arrache les genoux. Puis c'est très, très différent parce que tout va un peu plus vite vu que le rebond est plus bas. Et par la suite, ben, tu dis, OK, là, c'est le dernier sprint final dans la canicule, dans la moiteur de l'Est de l'Amérique en plein été. Et Dieu sait que c'est humide et chaud. Et c'est encore plus humide à Cincinnati que ça ne l'était à Montréal. Et puis la finale, évidemment, le dernier tournoi du Grand Chelem au US Open. Alors, 2 semaines où là, c'est en même temps, c'est une folie. Parce que juste de se rendre du stade au centre-ville, ça peut être une aventure qui peut durer 2h30. Tu sais jamais comment sera le trafic et tout ça. Et puis, c'est aussi une ambiance de kermesse. Hein? C'est la folie. Alors, les joueurs ont besoin de prendre un peu de temps. Mais Nadal, lorsqu'il accepte, et ça, je te l'ai toujours dit, Jérémy, et c'est probablement la qualité numéro un que je vois chez lui, quand il s'engage, il joue au tennis, il ne cherche pas d'excuses, il en a pioché un coup en début de tournoi, mais regarde qui est le meilleur en fin de tournoi, qui passe un message très, très fort aux petits jeunes devant. Écoute, encore des croûtes à manger parce que ton revers croisé à plat, il est extrêmement beau, puis il a fait la vie dure à bien du monde cette semaine, et à Washington aussi, parce que c'était quand même une deuxième finale de suite pour Medvedev, mais en même temps, ça donne que c'est sur mon coup droit, le meilleur coup droit au monde. Alors, bonne chance, mon ami, puis passe de la parole aux actes, Nadal, il s'accroche, il se bat. Et au cœur de la bataille, il est mon homme.
Exactement, définitivement. Il a été tout simplement spectaculaire. Première tête de série qui remporte le tournoi de Montréal. Et du côté de Toronto, des images rafraîchissantes. J'ai aimé ce que j'ai vu. Bianca Andreescu qui remporte le tournoi de la Coupe Rogers sur l'abandon de Serena Williams. Mais d'entendre les propos de Bianca Andreescu qui semblait une jeune fan de Serena Williams qui lui parle, qui essaie de la consoler. Honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant.
Elle est très, très drôle, hein? Puis maintenant, elle a plus d'expérience, elle sait qu'elle a sa place, elle sait qu'elle sera top 10 dans un avenir rapproché, et moi, je pense très certainement, si elle reste en santé avant la fin de l'année, donc, elle nous sort des phrases quelquefois, elle est vraiment très, très comique. C'est sûr que ça a été une semaine rocambolesque, hein, avec des hauts et des bas, mais surtout beaucoup, beaucoup de hauts. Cette fille-là, c'est une gagnante, Jérémy. C'est une pépite qui nous arrive comme ça. Il y en a une à tous les 100 ans. Elle est extraordinaire, puis elle va nous amener très, très loin, puis on pense même que si elle peut rester en santé, trouver la manière de peut-être avoir moins de montagnes russes à l'intérieur de ses matchs pour s'économiser, elle va pouvoir avoir moins de difficultés physiquement dans ses matchs et rester en santé un peu plus facilement. Quoi qu'il en soit, Bibi était tellement cute, c'est comme ça qu'on l'appelle, Bibi. Elle est allée voir Serena, elle dit « oh my God, I know, j'ai été blessée moi aussi, je sais comment tu te sens. » Et là, Serena, évidemment, devant un éclat comme celui là ou une façon de faire, les filles sont plus réservées, puis les meilleures au monde ne s'aiment pas trop. Alors, c'est rare qu'on va faire preuve de générosité. Puis elle a dit, écoute, je sais comment tu te sens, fais-toi-en pas. Moi aussi, j'ai été beaucoup blessée, il n'y a rien de pire que ça. Puis Serena, c'est dommage, honnêtement, Jérémy, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer comme ça et se déplacer sur un terrain de tennis comme ça. Et en pensant un peu à mon affaire, je me suis dit, tiens, on avait peut-être eu un petit indice dans son match de demi-finale devant Marie Bouskova, alors qu'elle avait fait 18 fautes directes au premier set seulement. Alors, et pourtant, elle avait été tellement constante durant toute la semaine. Alors, tu sais, lorsqu'il y a un problème en haut du dos, donc quasiment le cou, et que tu frappes la balle comme frappe Serena Williams, que ce soit au service, que ce soit en fond de terrain, ça fait mal. Alors, tu frappes, mais tu sais que tu peux te blesser plus gravement. Alors, c'est pas une situation facile. Puis en même temps, moi, j'aurais aimé qu'elle essaie de jouer un peu plus longtemps, peut-être, mais visiblement, elle sentait qu'elle était incapable de le faire.
Quand même, c'est un bon incroyable pour Bianca Andreescu. En un an, elle passe de la 207e position mondiale à la 14e joueuse mondiale. C'est extraordinaire.
Oui, puis sagement, on a décidé d'opter pour le repos. Parce que c'est tentant quand tu gagnes hein, de vouloir continuer, parce que les femmes sont aussi à Cincinnati cette semaine. Mais je pense que se reposer, aller chercher beaucoup, beaucoup de soins, s'assurer que l'épaule soit bien, prendre les choses un peu mollo, profiter de cette gloire qui l'eût cru. Moi, je pensais juste qu'elle allait gagner un ou deux matchs, puis qu'elle puisse, on dit en anglais, to ease her way into the tournament, tu sais, qu'elle tranquillement, qu'elle retrouve sa place sur le circuit. Mais non, elle a fait rien comme les autres. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Elle est extraordinaire.
C'est tout simplement spectaculaire ce qui s'est fait du côté de Toronto. Et encore une fois, tu as fait un excellent travail. Merci beaucoup, Hélène Pelletier, d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.